La poésie didactique. La poésie didactique a pour représentant principal Hésiode, qui aime proclamer que les muses l'ont choisi pour exprimer la vérité. La théogonie, naissance des dieux, dépeint l'évolution du monde jusqu'à la souveraineté de Zeus, qui impose un ordre moral. Les travaux et les jours, sa seconde œuvre, contient des indications et des conseils pour mener à bien les travaux des champs. La poésie didactique, qui s'appuie pour cela sur la versification, les rythmes et les sonorités, vise à enseigner quelque chose dans un domaine moral, religieux ou philosophique. Le théâtre. Le théâtre fascine et dérange. Il fascine car depuis ses origines, il est un art du sacré, une représentation destinée aux dieux, quitte à les mettre en scène. Il dérange car il offre une représentation volontairement outrée du monde, qu'il s'agisse de la comédie ou de la tragédie. Tout y est plus grand, les sentiments, les personnages et les situations inextricables ou cocasses. La tragédie. Liée au culte du dieu Dionysos, la tragédie apparaît vers le VIe siècle sur le sol de l'Attique. Les fêtes de Dionysos, célébrées à l'occasion des vendanges, sont accompagnées de danses et chants spéciaux, les dithyrambes, en l'honneur de ce dieu. Un bouc est immolé à l'occasion, ce que rappelle l'étymologie du mot tragédie, le chant du bouc. Longtemps, ces chants lyriques se sont perpétués ainsi. Puis, le besoin de trouver un autre thème, un autre héros se fit sentir. La tragédie classique en France. La poétique d'Aristote a été, grâce à ses traductions, l'un des moyens de résurrection de la tragédie en France pendant la Renaissance. Jusqu'au XVIIIe, des règles se mettent en place dans un souci de perfection esthétique pour codifier le genre de façon très rigoureuse. Les tragédies doivent désormais répondre à plusieurs impératifs. Être écrite en vers, comporter 5 actes, l'acte 1 est celui de l'exposition, les 3 suivants font progresser l'action dramatique jusqu'à une fin catastrophique. Le dernier contient le dénouement malheureux, la mort du héros. Rien ne doit choquer le spectateur. Les scènes de violence et de combat sont supprimées. Formulée par Boileau dans son Art poétique, la règle des 3 unités impose de nouvelles contraintes. Unité de temps, l'action ne doit pas durer plus de 24 heures. Unité de lieu, l'intrigue se déroule dans le même lieu. Unité d'action, une seule intrigue pendant la pièce. Le drame romantique. Le genre évolue peu jusqu'au XIXe siècle, date à laquelle le romantisme apporte une nouvelle forme dramatique. L'individu est au centre du monde. Le progressif effacement de la tragédie n'empêche pas une vision tragique du monde de persister à travers des auteurs comme Albert Camus, 1913-1960, ou Eugène Ionesco, 1909-1994. Dans la préface de Cromwell, 1927, Hugo condense toutes les revendications des romantiques au sujet des pratiques théâtrales. C'est une véritable défense et une illustration du drame romantique. Le drame hugolien remet en question les préceptes de tragédie depuis le grand siècle, notamment la règle des 3 unités. Le siècle donne naissance à de nouvelles formes dramatiques comme le drame psychologique où s'illustrent Strindberg, Tchekhov, Sartre ou encore Jean Anouilh, 1910-1987. La comédie. À l'origine, le mot comédie désignait toutes sortes de pièces de théâtre. Par la suite, il s'est spécifié et s'est différencié de la tragédie sur plusieurs points. Voici les 3 principales sortes de comédie. La comédie antique, la bonne farce et la comédie moderne. La comédie antique. Ses origines sont populaires. Il y avait dans le cadre des fêtes dionysiaques des cortèges burlesques appelés comois. Ce théâtre spontané engendra dès le VIe siècle des farces, pantomimes et divertissements mythologiques. Aristophane est son plus illustre représentant, qui s'attache à tourner en dérision la démocratie athénienne. Les guêpes, les oiseaux, les grenouilles.
Le saviez-vous ? La bonne farce. À la fin du XIIIe siècle, naît la farce, issue des fabliaux et des contes médiévaux. C'est une pièce comique, rattachée au mystère, pièce de théâtre qui mettait en scène des sujets religieux. Avec la Renaissance et le classicisme, la farce ne modifie que les coutumes sociales qu'elle présente. Elle se caractérise alors par un langage populaire, plein de saveurs, des personnages réduits à un trait grossier de caractère et un comique des gestes. Les plus connus sont la farce de Maître Patelin, en 1465, de Molière. Les Précieuses Ridicules, en 1659. Et l'École des Maris, en 1661. Deux pièces de Molière qui pratiquent la farce et la comédie. Et Uburoi, d'Alfred Jarry, en 1888.
Pour Aristote, la comédie doit être avant tout l'imitation d'hommes de qualité morale inférieure, non en toute espèce de vie, mais dans le domaine du risible, lequel est une partie du lait. Dans le monde romain, au IIe siècle avant Jésus-Christ, elle connaît un véritable éclat avec Plaute et Terence. C'est à travers la satire et la farce que la comédie perdure pendant le Moyen Âge, nous laissant de nombreuses pantomimes et préparant l'épanouissement de la Commedia dell'arte. La comédie moderne. Au sortir de la Révolution, la comédie prend de nouvelles formes, celle du vaudeville notamment, puis, sous l'impact de la bourgeoisie, de la comédie de mœurs, avec Ernest Labiche 1815-1888, Georges Feydeau 1862-1921, Georges Courteline 1858-1929. Le XXe siècle voit la diversification de la comédie en comédie allégorique, avec Paul Claudel, 1888-1955, en comédie poétique avec Jules Supervielle, 1884-1960, ou en comédie de l'absurde, Alfred Jarry, Uburoi, Eugène Ionesco, la cantatrice chauve. Certains auteurs privilégient toutefois toujours sa forme traditionnelle, tels Sacha Guitry, 1885-1957, Marcel Pagnol, 1895-1974. Jean Anouilh, 1910-1987. Le roman. Bien qu'il ne soit pas appelé à un grand succès à l'époque, un nouveau genre littéraire importé avec les autres productions grecques apparaît à Rome, le roman. L'Africain Apulée, 124-170, philosophe rattaché à l'école de Platon et d'Aristote, compose un roman satirique et philosophique, Les Métamorphoses ou l'Andor, dans lequel il se moque des ridicules et des vices qui dominent son époque. L'expression « mettre en roman » est utilisée dans la première moitié du XIIe siècle pour désigner des récits adaptés des textes latins. Le roman peut même désigner un roman en vers. Le roman de Renard, rédigé sans doute entre 1170 et 1250. Mais très vite, l'imaginaire s'en empare. Et le nouveau genre littéraire, le roman, prend le nom de la langue qu'il utilise. Son véritable acte de naissance se situe cependant au Moyen Âge, le roman de la Rose ou le Chevalier à la charrette de Chrétien de Troyes. Aujourd'hui, la prise en considération de sa longueur conduit à faire des distinctions entre la nouvelle, le récit court et le roman beaucoup plus long. Le roman classique. Le roman classique apparaît au milieu du XVIIe siècle et finit avec le XVIIIe siècle. Il s'oppose au roman baroque ou héroïque qui met en scène des personnages illustres. L'intrigue est simple, le nombre de personnages limité, le discours est élégant, plutôt ampoulé. Le public de ces romans devient la bourgeoisie aisée. On s'adresse à l'honnête homme, puis on aura davantage recours à l'exotisme. Plusieurs catégories éclosent en même temps. Le roman sentimental, Les liaisons dangereuses de Pierre Choderlos de Laclos, 1741-1803, La princesse de Clèves de Madame de Lafayette, 1634-1693, Manon Lescaut de l'abbé Prévost, 1697-1763, le roman utopique, Savinien de Cyrano de Bergerac, 1619-1655, L'autre monde ou les États et empires de la Lune, 1657, Fénelon, 1651-1715, Les aventures de Télémaque, 1699, le roman réaliste, comique, satirique, Diderot, la religieuse, 1760, Marivaux, 1688-1763, La vie de Marianne, 1742, Donatien Alphonse de Sade, 1740-1814, Justine ou les malheurs de la vertu, 1788. Le roman romantique. Les personnages ou leur auteur y trouvent une place essentielle. Le romancier veut exprimer l'âme de la nation mais aussi la perfectibilité de l'homme. Il donne aussi souvent un esprit de contestation à ses écrits. Ce type de roman peut être autobiographique, historique, à thèse ou social. Benjamin Constant, 1767-1830, Chateaubriand, 1768-1848, Musset, 1810-1857, Georges Sand, 1804-1876 en sont les plus grands représentants français. Les Allemands font dominer le sentiment de la nature, Goethe et les souffrances du jeune Werther, Dans le sillage de Richardson, les Anglais exercent une influence prédominante à l'étranger. Le roman historique. Dans le roman historique, l'auteur situe son action dans le passé et prend pour cadre de développement de celle-ci d'autres lieux, d'autres mœurs. Le roman d'aventure transporte le lecteur vers des horizons lointains, voire fantastiques. Ce genre est lié à la démocratisation de la lecture. Les noms d'Alexandre Dumas, d'Eugène Sue, 1804-1857, de Frédéric Soulier, 1800-1847, y restent attachés. Après 1850, prolongeant le roman historique, émerge le roman feuilleton. Au XXe siècle, Jeanne Bourrin, 1922-2003, La Chambre des Dames, Umberto Eco, 1932-2016, Le Nom de la Rose, Robert Merle, 1808-2004, L'Idole, Marguerite Yourcenar, 1903-1987, Mémoire d'Adrien, L'Œuvre au Noir, s'y illustreront.
Le saviez-vous ? Des auteurs inspirés. Nul ne songerait à mesurer le talent d'un auteur à l'aune de l'importance de sa production. Toutefois, saluons la prodigieuse capacité de création de certains géants de la littérature.
La nouvelle. La nouvelle se révèle vers le XIIIe siècle et s'impose comme genre autonome. En général, elle contient un récit. Elle reste proche du récit oral et se distingue du roman par le nombre d'éléments mis en œuvre. Le nombre de personnages y est plus limité, de même que l'action, et tous les fils du récit sont rattachés à un élément central. Le genre fantastique trouve en elle une expression privilégiée. Parmi les auteurs et les œuvres les plus connues, Boccace, le Décaméron, Geoffrey Chaucer, Canterbury Tales, Comte de Canterbury, Alphonse Daudet, Lettres de Montmoulin, Guy de Maupassant, La Peur, Edgar Poe, Histoires extraordinaires, Milan Kundera, Risibles amours, Jean-Marie-Georges Le Clézio, Mondo et autres histoires.
Le saviez-vous ? Bonne nouvelle. Dans un recueil de contes intitulé Le Décaméron, 10 jours en grec, Boccace imagine que, s'étant exilé à la campagne à cause de la peste de 1348 à Florence, 7 dames et 3 gentilshommes se racontent des histoires plaisantes pour tuer le temps. Assez libre, ces contes sont une peinture réaliste de toutes les conditions sociales. Leur influence est manifeste. Chaucer s'en inspire en Angleterre, avec les contes de Canterbury. Shakespeare, lui, emprunte le sujet de ses comédies, tout comme Marguerite de Navarre en France, puis Musset et Lamartine. Boccace, l'une des personnalités les plus intéressantes du monde littéraire, est appréciée à la fois comme écrivain, commentateur et apologiste.
L'autobiographie. Le mot autobiographie, étymologiquement écrire sa vie soi-même, apparaît en France vers 1850 comme un synonyme du terme mémoire. L'intérêt historique y est délaissé et l'accent mis sur la personne du mémorialiste. L'auteur-narrateur précise souvent dans une déclaration d'intention comment il va se traiter en tant que personnage. Rousseau a fourni le modèle durable du préambule solennel où le lecteur est directement interpellé. On distingue néanmoins des genres proches qui ne répondent pas systématiquement à l'ensemble de ces critères et sont aujourd'hui regroupés sous le terme de fiction autobiographique ou autofiction.
N'oubliez pas, Dieu et moi. Selon la tradition chrétienne, le futur saint Paul se convertit sur le chemin de Damas en entendant la voix de Dieu. C'est un des premiers récits à la première personne. Prenant la parole devant un auditoire, il déclare dans les Actes des Apôtres « Je suis juif, né en Tarse, en Cilicie. Comme j'étais en chemin et que j'approchais de Damas tout à coup vers midi, une grande lumière venant du ciel resplendit autour de moi. » Les gens d'église ont fait du récit de sa conversion le couronnement des schémas autobiographiques. Rédigé entre 397 et 401, La Cité de Dieu, ouvrage dans lequel saint Augustin s'adresse dans un dialogue ultime à Dieu, il subordonne la connaissance de soi à celle de Dieu. À partir du modèle augustinien, une longue tradition, parfois détournée, traverse les siècles, du Moyen-Âge jusqu'à nos jours. On peut citer les Confessions de Jean-Jacques Rousseau, la Confession d'un enfant du siècle d'Alfred de Musset, les Confessions d'un mangeur d'opium de Thomas de Quincey.
Le journal intime. Le journal intime peut être tout simplement un ensemble de feuillets racontant une période de la vie ou une vie entière, comme le journal de Henri Frédéric Amiel, 1821-1881, 16 900 pages. Il peut accompagner des périodes de crise ou des étapes de l'adolescence, journal de sa jeunesse, Stendhal, ou des grands événements historiques, journal de guerre de Sartre ou de Jean Malaquais, 1908-1998. Ce genre s'est forgé au XVIIIe siècle à partir de voyages généralisés dès la Renaissance, autant qu'à partir d'exercices spirituels ou d'événements particuliers qui ont favorisé l'expression de la contestation. Beaucoup de femmes s'y sont illustrées au XXe siècle, comme Anaïs Nin, Virginia Woolf, Anne Frank, ou au Japon, Sei Shonagon avec ses notes de chevet écrites autour de l'an 1000, document exceptionnel sur la société du Xe siècle. Les mémoires. Le mot « mémoire » du latin « memoria » désigne le témoignage écrit d'une personne sur sa propre époque et les événements qu'elle a vécus en tant que témoin ou qu'acteur. La différence majeure avec l'autobiographie réside dans la nature des faits racontés. L'auteur axe son récit sur des faits historiques, mêlant vie privée et vie publique, mais en donnant un peu plus de relief à la seconde. À la différence des mémoires du cardinal de Retz, 1613-1679, de Saint-Simon, 1675-1755, ou du général de Gaulle, 1890-1970, les mémoires d'outre-tombe de Chateaubriand se rattachent davantage au genre autobiographique. L'autofiction. Apparu dans les années 80, le terme autofiction est utilisé pour désigner la mise en fiction d'une vie personnelle. La promesse de l'aube de Romain Gary, l'inceste de Christine Angot. Dans ce type de récit, il y a une alternance entre vie réelle de l'auteur et fiction, ces deux parties étant indissociables. Parmi les autres exemples originaux, on peut citer La Gana de Fred II ou W ou Le souvenir d'enfance de Georges Perec, où la fiction sert à décrire des choses que l'auteur n'est pas arrivé à exprimer autrement.